dans un théâtre où marchent les mains. Les temps sont fous, tournent nos verres. C'est une femme qui chante un bal perdu, un cinéma de rue.
D'entendre la bande-annonce de la pièce de théâtre Les Vulnérables, ça donne l'impression d'un thriller, puis je pense que je suis pas trop à côté de la coche en disant ça, mais on va y revenir. Les Vulnérables, c'est la 10e production de Singulier Pluriel. Cette pièce sera présentée à compter de demain jusqu'au 28 mars au Théâtre Denise Pelletier. C'est aussi l'aboutissement de 20 ans de complicité artistique entre Ximena Ferrer et Julie Vincent, mon invitée. Donc, une complicité entre le Québec et le Sud. Bonjour Julie, bienvenue à l'émission. Oh, est-ce que vous m'entendez?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
OK, oui, je vous entends.
Bon, ben, bienvenue à l'émission, bienvenue à Canal M, Julie. Qu'est-ce que racontent Les Vulnérables?
Les Vulnérables, écoutez, ça raconte, pour le dire en peu de mots, ça raconte l'histoire d'un jeune Argentin qui va débarquer à Montréal et qui va devoir se construire à travers deux femmes, sa mère qui est une jeune poète, une actrice, et une femme qui a dû interner à l'hôpital psychiatrique à Buenos Aires, et une vieille actrice, une saltimbanque qui va rencontrer juste à côté du métro Lionel Groulx où elle joue l'accordéon. Et donc, à partir de cette intrigue, si vous voulez, eh bien, il y a un développement qui nous permet de créer tout un pont entre Buenos Aires et Montréal, entre, d'une certaine façon, l'histoire du Québec et l'histoire de l'Argentine. On semble très éloigné, mais en réalité, surtout par les temps qui courent, vous savez, il y a des tronçonneuses pas mal partout autour de nous.
Oui.
Alors, cette pièce, dans une forme cabaret, dans une forme déjantée avec la musique de Michel Smith, raconte cette histoire.
Non, on fait référence donc au président là, d'Argentine hein, qui est avec sa tronçonneuse.
Oui, oui. Ben, c'est le chef de la tronçonneuse. Oui, hein,
Javier Mélenchon, oui.
C'est lui qui l'a offert à Elon Musk. Mais je dis ça parce qu'en effet, c'est, l'histoire se répète puis c'est dans le sous-texte. Donc nous, on a voulu raconter une histoire avec un mode très, très fantaisiste, très poétique, mais c'est une histoire aussi qui n'hésite pas à embarquer à ce niveau-là, au niveau politique. On a l'impression que ça fait du bien.
Ouais.
Ça fait du bien à un moment donné quand les artistes, tout à coup, avec leur inventivité, une équipe de grand calibre, un petit spectacle, mais de grand calibre artistique, ben oui, on s'ouvre la trappe.
Ximena et vous, vous venez toutes les deux de mondes différents. Vous avez donc une collaboration assez intéressante. Parlons de cette collaboration. Comment ça a commencé tout ça?
Ah, c'est toute une autre histoire à raconter qui est belle.
Succinctement, mais on peut en donner un petit aperçu, oui.
Oui, ben j'avais d'abord rencontré par hasard un exilé uruguayen qui était parti après le coup d'État en Uruguay. L'Uruguay, c'est le plus petit pays de l'Amérique latine. Et je suis partie sur les traces de ce personnage-là. J'avais écrit une pièce sur lui, pièce qui avait déjà été produite, d'ailleurs, à Fred Barry, à Denise Pelletier. Et c'est dans ce périple-là que j'ai rencontré, à Montevideo, Ximena Ferrer. Et elle a fait du travail de théâtre à Montevideo et à Buenos Aires. Et puis, elle est tombée en amour avec un Québécois. Et puis, quelques années plus tard, elle est venue me voir jouer au TNM. Et puis, elle m'a dit, ben écoute, toi et moi, on devrait travailler ensemble. Puis, elle était tellement convaincante que c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, il y a beaucoup, curieusement, d'affinités entre l'Uruguay et le Québec. Comme je vous disais, c'est un petit pays qui est est au bord d'un fleuve, qui est entre deux grandes forces, hein, que sont l'Argentine et le Brésil, comme nous, un peu, hein, et qui défend sa culture et qui réussit à faire sa place. Donc, on avait beaucoup d'affinités, puis elle nous arrive comme metteur en scène en ce moment avec toute une façon de jouer nouvelle qui nous arrive d'Argentine, où on investit beaucoup le corps, l'ironie, la fantaisie. Les Argentins, eux autres, c'est très étonnant. Plus ça va mal, plus ils vont au théâtre. C'est vrai, je vous dis. Et ils jouent dans un contexte qui s'appelle le circuit des théâtres indépendants. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent jouer dans une ancienne pâtisserie, dans une gare abandonnée. Il y a depuis presque 70 ans que ce circuit-là existe. Et c'est un circuit de résistance en réalité où justement le public et les acteurs se rencontrent en toute complicité pour raconter ce qui se passe avec ironie.
Oui.
Alors, elle cherche à nous contaminer sa manière de jouer. Puis nous autres, on a bien le cœur ouvert à cette façon-là de travailler.
Alors, comment ça s'exprime sur scène? Parce que, bon, on parlait de l'ironie, là, des Argentins. Au Québec, on n'est pas tant ironique que ça, mais on est un peu râleur, hein?
Ben, on a quand même un petit peu d'humour. Hein?
Oui, on a un petit peu.
Mais on n'a pas tant d'ironie que ça. C'est vrai que cette ironie, probablement, elle provient d'une posture qu'ils ont été obligés d'adopter parce que à tous les 10 ans, c'est la crise là-bas.
Oui.
On parle pas de dictature, là, tu sais. Je veux dire, nous, on a eu des gros, on a eu de la grosse noirceur, là, tu sais, on se le cache pas, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Donc, et c'est aussi que, je vous dirais que aussi, il y a une attitude de jeu qui vient du carnaval uruguayen, où là-bas, pendant le carnaval, depuis toujours, il y a des acteurs qui improvisent. Et qui improvisent sur ce qui se passe, ce qui va mal. Et ils improvisent avec humour et avec des sortes de personnages de bouffons-conteurs qui se mettent à raconter tout ce qui se passe avec une énorme ironie. Et les citoyens vont regarder ça, puis ils rient, et en même temps, ils deviennent complices, si vous voulez, de la farce, mais aussi de l'intelligence avec laquelle, et la fantaisie avec laquelle c'est raconté. Donc, c'est un peu avec cette attitude-là qu'elle nous inspire et nous invite à jouer, entre autres, Guillaume Champoux, Victor Couellard et moi, des conteurs bouffons, qui allons jouer tous les personnages. Je vous dis, on joue toute une panoplie. Mais moi, je suis comme aguerrie à ça. Vous savez, j'ai créé La Déprime à l'époque avec Rémi Girard et Denis Bouchard. Et puis, on à quatre, on joue à 45 personnages.
Quand même.
Oui. Alors là, c'est peut-être pas autant. Mais ça me sert d'avoir fait ça, je vous dirais.
J'ai l'impression que le théâtre, ce que nous amène Ximena, c'est un espèce de théâtre exutoire. Ça fait où les gens vont un peu avoir ce plaisir, ce bonheur ou cette chance d'avoir une communication, un dialogue du moins avec les comédiens et les comédiennes sur scène. Et on va peut-être laisser ici au Québec, si je comprends bien. Mais j'ai aussi parlé que ça avait l'air d'un thriller, cette pièce de théâtre.
Que ça avait l'air d'un thriller, oui. Mmh. Oui, effectivement. Effectivement, ça, c'est en lien avec mon écriture. J'ai voulu... Il y a aussi une inspiration, disons-le, dans le mot d'ovaire. Et donc, il y a vraiment un thriller. Et il y a une pièce qui veut être jouée à Montréal, puis il y a des vieux comédiens qui ont bien de la misère à monter leur pièce parce que ben, ils arrivent pas, ils ont pas d'argent, puis aussi on les trouve trop vieux. Puis il y a une gang de jeunes comédiens à Buenos Aires qui veut monter une pièce, mais 20 ans auparavant. Et entre ces deux groupes de personnes, il y a l'histoire de quelqu'un qui est mort, qui a été assassiné. Et donc, je me suis beaucoup amusé en travaillant sérieusement, je dirais, avec un conseiller en dramaturgie qui est Paul Lefebvre, à monter cette intrigue policière à deux volets. Et le spectateur, donc, j'ai l'impression qu'il y a, en plus de cette déploiement de fantaisie, il y a cette jouissance aussi à suivre ce thriller qui se dénoue évidemment à la fin, mais là, je ne vous le dirai pas.
Ben non, ça c'est une règle ici à Canalem, on ne divulgâche rien.
On ne divulgâche rien, mais j'essaie de vous donner les couleurs, la fantaisie.
Oui, tout à fait. Ben, je pense que ça, déjà, on a vraiment le goût d'aller voir ça avec ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. J'aimerais parler du théâtre singulier pluriel. On dit que c'est un théâtre de fortune, c'est ce que j'ai lu, où on bricole avec des objets, de la musique en direct et des présences fantomatiques. J'ai l'impression que dans le contexte actuel des arts, cette précarité assumée, est-ce qu'on peut voir ça comme une métaphore de la condition actuelle du milieu artistique?
Est-ce que vous voulez me faire pleurer, là?
Non, pas du tout. C'est pas mon intention, promis.
Non, mais je suis pas... Je vais pas non plus pleurer. Je le disais avec ironie. C'est très, très, très difficile. Ouais. C'est très difficile. Parce que, qu'est-ce qui arrive? On a un camarade qui a fait une sortie, là, qui est apparu dans la presse. Steve Gagnon. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, par exemple, admettons que t'as une subvention. T'es ouais. à un niveau, t'as une subvention à l'autre niveau. Donc, t'es presque prêt. Mais, oups, il y a un palier qui lui ne répond pas. Et puis, t'as la chance d'avoir une ouverture, t'as la chance d'avoir un théâtre, mais tu fonces.
Oui.
Pourquoi tu fonces? Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans.
Que tu
travailles sur ce projet-là.
Oui, donc, je vous interromps quelques secondes, juste pour rappeler aux gens, Steve Gagnon a mis de sa poche quelque chose comme 32 000 $ en espérant en attendant d'avoir une subvention qu'il n'a pas reçue du Conseil des arts.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Moi, je ne vous dirai pas le montant que j'investis en ce moment, OK? Ah bon. Je ne le dirai pas ce matin.
Parce que nous, on va pleurer à ce moment-là.
Mais je le fais.
Ouais.
Pourquoi je le fais? Je suis solidaire de ceux qui se retirent quand ils n'ont pas leur subvention. Je suis solidaire de ça. Je suis avec ma gang. Je suis une camarade d'équipe. Je suis vraiment avec tout le milieu là-dessus. Par ailleurs, c'est la vie de 10 personnes, 10 à 15 personnes d'une équipe qui sont complètement engagées parce qu'une création, c'est pas vrai. Ça commence pas 6 semaines avant la première. Mon compositeur de musique, Michel Smith, ça fait 2 ans qu'il compose. La marionnettiste, ça fait 2 ans que je travaille avec elle. Michel Laliberté, notre scénographe, je ne peux pas vous dire à quel point elle fait un travail raffiné et de haut calibre. Et moins on a d'argent, plus on doit se réinventer avec des matières recyclées. Nous, on a, en ce moment, si vous voulez, on a perdu aussi Claude Poisson.
Oui.
C'est lui qui avait choisi de nous accueillir et l'équipe de Denise Pelletier nous a ouvert son grenier. Et ça a l'air poétique, mais c'est très concret. C'est à partir de ce geste-là qu'on a pu recycler des éléments. Et Rodolphe Saint-Arnaud aux éclairages, oui. On prend des choses qu'il y a chez nous. Moi, j'ai des bancs qu'il y a chez nous, je mets mes souliers. Tu sais, on n'a pas... Nos vêtements ne sont pas commandités, là.
On fait avec les moyens du bord, Julie. Je vais devoir interrompre ici parce qu'on arrive à la fin de cette partie de l'émission.
Bon, ben, j'en avais à vous dire sur le sujet.
Oui, mais déjà, ça nous donne déjà une bonne idée. Puis merci d'avoir partagé ça avec nous parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point les artistes, surtout les artistes des arts vivants, là, vivent dans la précarité. Alors, merci beaucoup. Et surtout, moi, je vais rappeler que cette pièce, Les Vulnérables, est présentée au Théâtre Denise Pelletier, à la salle Fred Barry, à partir du 10 mars, donc demain jusqu'au 28. Merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à l'émission.
Je vous remercie pour vos pertinentes questions. Il y a un petit clin d'œil au Misérable de Victor Hugo, mais ça se passe en ce moment, courageux public. Ah. Abat la tronçonneuse.
Merci beaucoup, Julie. Après la pause, c'est les parasports. On va parler des Jeux paralympiques. On va parler aussi du film Invisible. À tout de suite.